Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, la bonne tenue des élections favoriserait l'accélération du désengagement de la MONUSCO en RDC, selon la chef de la mission onusienne. Pour y arriver, Madame Bintou Keïta appelle les uns et les autres à la retenue et à éviter des discours incendiaires. Le gouverneur de Kinshasa autorise la marche de l'opposition programmée pour demain samedi. Gentili Ngobila approuve également les manifestations de l'Alliance des Congolais progressistes et la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'était hier à l'issue d'une réunion tenue à l'hôtel des villes. Notre invité, c'est le docteur Philippe Katunga. Ce professeur de médecine interne à l'université officielle de Bukavu affirme que l'excès de sel, l'excès d'alcool ainsi que l'obésité sont les principaux facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle devenue récurrente dans la ville de Bukavu. Madame, messieurs, bonsoir. La bonne tenue des élections favoriserait l'accélération du désengagement de la MONUSCO de la RDC. Déclaration faite à Kinshasa ce vendredi par la chef de la mission onusienne en RDC. Madame Bintou Keïta a appelé les uns et les autres à la retenue et à éviter des discours de haine. Au sujet précisément des élections dans les zones sous occupation des rebelles du M23, elle pense qu'il serait souhaitable d'envisager un couloir sécurisé qui permettra à la population de participer aux élections. Des propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Notre question, c'est la question relative à qu'est-ce qui se passe dans les zones occupées par le M23. Nous avons fait un plaidoyer auprès de la CENI, qui est pris en compte d'ailleurs, puisqu'il s'agit de voir comment procurer des couloirs sécurisés pour les personnes déplacées internes qui se trouvent dans le Petit Nord. Et nous avons aussi un précédent qui a été présent en 2018 où certains territoires n'ont pas pu voter et ça s'est fait, je crois que c'était dans le contexte de Ebola et ça a été rattrapé par la suite. Donc il n'y a pas simplement un dispositif fermé, il y a une ouverture pour regarder comment faire en sorte pour qu'il n'y ait pas des personnes qui soient désenfranchies de leur capacité à pouvoir voter au moment opportun lorsque les scrutins seront ouverts.
5 morts et 4 grièvement blessés à coups de flèche. Bilan de l'attaque menée hier jeudi après-midi par la milice Etoua au village de Kikonde, situé à 7 km de la localité de Tembwe dans la province du Tanganyika. L'administrateur du territoire de Kalemie dit ignorer la cause de cette attaque. À Kalemie, le récit de Paul Emunanga.
D'après certaines sources, la milice Toa a tenté une première attaque qui a été repoussée par les habitants du village Kikonde dans l'avant-midi de ce jeudi, un village à majorité bantou. Cette résistance des habitants a obligé les assaillants à se replier, rapportent les mêmes sources. Cependant, la milice a tenté une seconde attaque surprise dans l'après-midi. D'après l'administrateur du territoire de Kalemie, au cours des affrontements, il y a eu 3 bantous et 2 Toa qui ont été tués. Les 4 blessés ont été acheminés dans des centres de santé les plus proches. Mais selon d'autres sources, c'est 3 personnes qui ont été tuées, parmi lesquelles un Toa et 2 Bantous. La milice Toa aurait aussi pillé quelques biens de la population, indique des sources au village Kikonde. Les mêmes sources renseignent que dans la soirée de ce jeudi, les autorités militaires et coutumières venues de la localité de Tembwe sont intervenues pour mettre fin à ces hostilités. L'administrateur du territoire de Kalemie annonce avoir dépêché une délégation sur les lieux des affrontements pour avoir d'amples précisions. Kalemie, Polemouna Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, plus de 1000 vaches ont été abattues ou volées carrément par des miliciens dans les territoires de Masisi et de Rutshuru depuis le début du mois de mai. Cette situation est déplorée par l'association des éleveurs. Les membres de l'Akogenoki redoutent l'effondrement de l'élevage où plus de 50 000 têtes de bovins ont été décimées ces 2 dernières années. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Danyangi.
Pour l'attaque sur les éleveurs et leurs vaches attribuées finalement aux rebelles rwandais FDLR le 2 mai dernier vers Kalenga en territoire de Rutshuru, la Kogenoki donne un bilan définitif d'au moins 450 vaches qui avaient été abattues par armes à feu. Plusieurs autres centaines de vaches ont été pillées dans des fermes, entre autres à Mahanga, Ruvunda et Kabati, en territoire de Masisi. Conséquence, plusieurs éleveurs évacuent déjà leurs vaches et même leurs petits pour les vendre à la société d'abattoir de Goma, Sabago. C'est comme en témoigne ici le directeur de cette société, Kambale Bake Norbert.
C'est la guerre qui pousse tout simplement les éleveurs de voir là où on peut vendre leurs vaches pour qu'on ne puisse pas le tuer ou bien le voler. Il y a un mois, deux mois que les gens commencent à se pointer ici pour vendre leurs vaches.
Pour le président de la Kogenoki, c'est à peu près 50 000 têtes de bovins qui ont déjà été tués ou pillés par les miliciens dans les deux territoires les deux dernières années. Il estime que si la situation perdure dans les deux mois à venir, la province risque de tomber dans une carence de vaches et sous-produits laitiers. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. La marche de l'opposition programmée pour demain, samedi, ici à Kinshasa, a reçu l'approbation du gouverneur de la ville. Jean-Tini Ngobila a également approuvé les manifestations d'autres formations politiques de la majorité au pouvoir, notamment l'Alliance des Congolais progressistes et la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est ce qui ressort en tout cas d'une réunion tenue hier à l'Hôtel des Villes avec les secrétaires généraux de ces partis. Des précisions avec le ministre provincial de l'Intérieur, les propos de Gratien Sakala ont été recueillis par Chris Bandundu Kapalai.
Tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakumbi, l'avenue Kasavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue des jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter devant l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc, pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, il a donc dû séparer. À cet effet, l'autorité urbaine a rappelé qu'en cas de trouble à l'ordre public, en cas de vandalisme, en cas d'atteinte tant physique que toute perturbation de la quiétude des Kinoises et Kinois, la responsabilité pénale et civile des organisateurs serait engagée.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, à Dimalumbu, un village situé à 12 km de la ville de Bandundu, plus de 250 élèves de l'Institut Lokolama n'ont pas étudié depuis l'inondation de leur école par la rivière Kasai. Ces intempéries ont tout détruit. Le directeur de la division de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Kwilu 1, dit avoir pris des dispositions utiles pour que ces élèves suivent les cours dans une autre école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Denis Changa Kapinga met les autres autorité devant leurs responsabilités. Il est au micro d'Irène Boma.
L'école Lokolama des protestants est inondée. C'est une école qui organise quatre options, mais malheureusement, le bâtiment est vraiment submergé. Alors, nous avons pris des dispositions. Ces enfants étudient dans une autre école primaire les après-midi. Ils sont en nombre à peu près de 250 élèves. Alors, nous nous sommes dit, on ne peut pas les laisser comme ça, mais nous avons lancé SOS pour que les autorités puissent aussi nous venir en aide, voir comment nous pouvons décanter cette situation. C'est un fait catastrophique, naturel. C'est la rivière Kasai qui a débordé. L'école est non loin, elle est construite à côté de la rivière Kasai. Sans endommager de bancs, d'ailleurs les maisons de la communauté sont détruites. Nous demandons que les autorités puissent venir en aide, c'est-à-dire s'il y a moyen. Il y a des bancs qui ont coulé, il y a même certaines fournitures qui ont coulé, et même des installations hygiéniques sont abîmées. Il faudra qu'on puisse voir comment on peut arranger pour que cette école puisse fonctionner l'année prochaine. Ou peut-être déplacer cette école pour l'amener ailleurs. Là alors, on va reconstruire pour que, même s'il y aura inondation dans l'avenir, que ça ne puisse pas endommager l'école.
Revenons un instant au Nord Kivu où la zone de santé d'Oicha dans les territoires de Beni a enregistré 17 décès sur près de 2000 cas de rougeole depuis le début de l'année 2023. Le chargé de la surveillance épidémiologique affirme qu'en février dernier, la zone de santé a notifié 7 décès. De mars à ce jour, il y a eu environ 600 cas suite à l'inaccessibilité de certaines aires de santé lors de la campagne de vaccination qui a été organisée. Koule Kiusa a été joint par André Kitenge.
S'agissant pour cette année, de janvier à nos jours, nous venons de notifier 1918 cas de rougeole avec 13 cas de décès. La zone de santé a 27 aires de santé. Les ripostes que nous avions organisées, c'était dans 15 aires de santé. Les autres aires de santé restantes, ce sont des aires très insécures. Pourtant, il y a encore des enfants. Et les gens font toujours des mouvements là-bas. Et voilà, les enfants enfants sont en train de se contaminer. Mais alors, les nouveaux cas qui viennent, vous allez constater, c'est plus les aires de santé dans la commune qui sont dans la gratuité totale. Et quand ils sont dans la gratuité totale, ils sont en train maintenant de notifier ces cas de rougeole venant des aires de santé qui n'étaient pas programmées pour la vaccination. Mais alors, l'épidémie est en train d'attraper les autres enfants hors cible, les enfants qui ne sont pas programmés ou qui n'étaient pas programmés pour la vaccination depuis des 5 ans jusqu'à cinquantaine d'années, ceux qui n'ont jamais contracté la maladie.
Et puis le passage de la chef de la MONUSCO dans le territoire de Calais au sud Kivu est un signe d'espoir selon le chef du sous-village de Kabushungu. Paulin Abamungu affirme que les sinistrés de la dernière catastrophe naturelle de Calais attendent que Madame Bintou Keïta multiplie les plaidoyers auprès des autres partenaires pour obtenir l'assistance. Paulin Abamungu s'est confié à Jean Kassami.
La zone de santé de Calais a été victime d'une catastrophe naturelle et qui nous a causé beaucoup de pertes en vies humaines. Le gouvernement a mis la main et a envoyé ses aides en urgence. Mais aussi, vous avez remarqué avec nous qu'il y a beaucoup de partenaires qui interviennent et petit à petit, nous commençons à désamorcer tout ce que nous pouvions craindre comme survenue des épidémies. Oui, il y a des défis qu'on observe et ils sont nombreux et ensemble, nous sommes en train de voir comment les éviter avec l'appui de ces organisations. Mais l'aspect sur lequel il faut vraiment insister, c'est l'aspect prise en charge psychosociale. Donc aujourd'hui, nous avons cette crise. Demain, la crise va peut-être prendre fin, mais on se demande comment gérer toutes ces personnes-là qui ont été traumatisées psychologiquement. Donc ces défis-là, ils restent vraiment majeurs, mais ensemble, nous sommes en train de voir comment remédier, comment prendre en charge tous ces rescapés-là qui sont dans la zone de santé de Calais.
Dans la Tchopo, le gouverneur de province a pris 2 arrêtés portant respectivement suspension et du morcellement et lotissement, fabrication et distribution et utilisation d'armes et de munitions signés depuis le 10 mai dernier. Ces arrêtés ont été rendus publics hier à Kisangani, la correspondance de Jacques Mukongole.
Ces 2 arrêtés sont initiés par le ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Le premier porte sur la suspension et c'est jusqu'à nouvel ordre de tout lotissement et morcellement d'une superficie de plus de 2 hectares. Cette disposition est motivée par la nécessité de lutter contre les conflits fonciers devenus récurrents dans cette juridiction. En effet, certains propriétaires terriens et autres agents des titres fonciers et du cadastre sont impliqués dans la vente illicite des parcelles ou des concessions à des tiers. D'autres excellent dans la spoliation des parcelles, créant ainsi des conflits sociaux et l'insécurité dans la ville. Le second arrêté tient à lutter contre l'insécurité devenue chronique dans cette entité. Certains criminels utilisent les armes à feu dans leur sale besogne. Afin d'endiguer ce fléau, Madeleine Nikomba interdit jusqu'à nouvel avis la fabrication, la vente, l'achat, la distribution d'armes à feu et des munitions. Elle précise tout de même que cette disposition ne concerne ni les FRDC ni la police. Ces décors sont régulièrement autorisés à détenir des armes et munitions pour des raisons de service conformément aux instructions en vigueur. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités burkinabées annoncent le début des auditions dans le cadre de l'enquête sur les tueries survenues le 20 avril dernier à Karna, une cité située au nord du pays. Il s'est agi, selon elle, d'une conspiration contre le pays pour ses choix stratégiques. Selon les témoignages recueillis sur place, cette tuerie serait commise par des hommes arborant des tenues de l'armée burkinabé. Les dirigeants du groupe de 7 grandes nations industriels sont en réunion annuelle ce vendredi à Hiroshima, au Japon. Au menu de la rencontre, la guerre qui déchire actuellement l'Ukraine. La plupart des dirigeants qui sont arrivés hier soir ont entamé du coup des pourparlers qui vont se poursuivre jusque dimanche sur l'économie mondiale, les affaires régionales et la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Et puis, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est placé sur la liste des personnes personnes recherchées en Russie, selon le ministère russe de l'Intérieur, deux mois après que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'indique une note qui a été publiée sur les sites du ministère et consultée vendredi par l'AFP, sans préciser la nature de l'infraction.
L'invité.
Notre invité, c'est le docteur Philippe Kachunga. Ce professeur de médecine interne à l'université officielle de Bukavu au Sud Kivu affirme que l'excès de sel, l'excès d'alcool ainsi que l'obésité sont les facteurs environnementaux qui favorisent l'hypertension artérielle devenue récurrente ces jours-ci dans la ville de Bukavu. Il s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Docteur Philippe Kachunga, bonjour.
Bonjour madame.
C'est quoi l'hypertension artérielle ?
Oui, on parle de l'hypertension artérielle lorsqu'il y a une augmentation de pression, c'est-à-dire du sang, dans les artères. Les artères, ce sont des vaisseaux qui amènent du sang oxygéné. Et donc, quand ce volume du sang augmente dans les artères, cela augmente la pression du sang. Et là, on parle de l'hypertension artérielle.
Qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle?
Il y a d'abord ce qu'on appelle une hypertension artérielle essentielle, là où on ne trouve pas de cause. Mais les facteurs qui peuvent expliquer ce type d'hypertension, c'est d'abord des facteurs génétiques. Quand vous naissez dans une famille, des parents, oncles hypertendus, vous pouvez devenir hypertendu. Il y a également des facteurs maintenant environnementaux. Lorsqu'on prend un excès de sel, des aliments qui sont riches en sel, un excès d'alcool peut s'expliquer l'obésité, peut aussi expliquer cette hypertension. Plus on avance en âge, plus aussi on peut attraper cette hypertension. Là, c'est l'hypertension essentielle. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. C'est lorsqu'il y a un organe bien précis qui est atteint. Par exemple, vous avez une maladie des reins, ou bien vous avez une maladie endocrinienne. Donc, certaines hormones augmentent ou diminuent dans le sang. Cela peut également donner une hypertension artérielle.
Que faut-il faire pour éviter ou bien pour prévenir l'hypertension artérielle?
Donc, pour prévenir l'hypertension, on agit sur les facteurs environnementaux. Premier facteur, comme on a dit, l'excès de sel. Donc, il faut manger modérément du sel. Il faut augmenter la consommation des fruits, parce que dans les fruits, il y a certains éléments comme du potassium qui permettent de baisser la pression artérielle. Il faut lutter contre l'obésité. Donc, il ne faut pas être obèse en augmentant l'activité physique et en consommant des aliments qui ne sont pas très calorigènes. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, que l'âge, plus on augmente en âge, plus aussi l'hypertension peut survenir. D'où, il faut quand même un dépistage. Aller à l'hôpital, voir votre pression, plus vous augmentez en âge, surtout à partir de 40 ans, faire le dépistage, voir si on est hypertendu ou pas. Alors, si on est hypertendu, évidemment, le médecin vous prescrira soit des mesures hygiénodiététiques, soit des médicaments qu'il faut prendre tous les jours. Alors, si on n'est pas hypertendu, alors il faut éviter les facteurs qui peuvent amener à l'hypertension, c'est-à-dire l'excès de sel, l'excès d'alcool, l'inactivité, l'obésité. Donc, si vous respectez toutes ces mesures hygiénodiététiques, ces mesures peuvent déjà vous prévenir contre l'hypertension, tout comme ces mesures peuvent aussi baisser votre tension au point que le médecin peut arrêter aussi le traitement médical.
Qui sont les plus touchés par l'hypertension artérielle?
Oui, l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui vient avec l'âge. Donc, les personnes les plus touchées, c'est d'abord des personnes âgées, au-delà de 40 ans et plus. Ce sont des personnes qui sont les plus touchées. Dans notre milieu, il y a aussi le milieu urbain, c'est-à-dire dans les villes, parce qu'on change de mode de vie, on devient un peu plus stressé, on mange gras, trop salé. Donc, les personnes qui vivent en ville sont les plus touchées également. Troisièmement, ce sont les personnes obèses qui sont les plus affectées. Mais les personnes aussi moins âgées, surtout s'ils sont en contact avec ces facteurs environnementaux, surtout l'obésité, l'excès d'alcool, l'excès de sel, peuvent également devenir hypertendus.
À quoi sont exposés les hypertendus? Les conséquences?
Les conséquences de l'hypertension, c'est au niveau du cœur, parce que le cœur risque de ne pas mieux fonctionner. À ce moment-là, le cœur peut gonfler et l'individu peut sentir qu'il commence à être essoufflé quand il marche. Là, nous parlons de l'insuffisance cardiaque. Le cerveau peut être touché. Lorsqu'il y a un vaisseau qui est bouché, de l'hypertension ou bien un vaisseau qui éclate dans la tête et là, ça provoque ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Les reins peuvent également être touchés et là, c'est une insuffisance rénale, mais les vaisseaux en périphérie peuvent être bouchés à cause de l'hypertension. D'où la personne, lorsqu'elle va marcher, elle aura des douleurs au niveau des mollets, que nous appelons la claudication intermittente. Les études que nous avons menées montrent une prévalence très élevée de l'hypertension artérielle chez des sujets adultes au-delà de 20 ans. En tout cas, nous avons trouvé une prévalence d'autour des 40%. Cela veut dire que sur 10 sujets adultes au-delà de 20 ans, 4 peuvent être hypertendus.
Docteur Philippe Kachunga, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, Dr Philippe Kachunga, professeur de médecine interne à l'Université officielle de Bukavu, a été interviewé dans cette ville de Bukavu par Rachel Kessemangou. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.